Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. De la plus rebelle des radios, c'est Radio Canu, Radio Canu, qui a émis toute la journée en direct depuis la place Satonnet, à deux pas des studios de la radio, place Satonnet, où avait lieu le traditionnel repas de quartier du 1er mai. Et parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses, et que traditionnellement, Radio Canu, à l'issue de la manifestation, organise un repas de quartier, place Satonnet, et on est ravis de faire en direct cette émission. Cette énième édition d'Idées Noires, l'émission du groupe local de l'UCL, de l'Union Communiste Libertaire, ce mercredi 1er mai 2024, journée internationale de lutte. Beaucoup de choses, une émission qui va être riche, on va revenir sur les origines du 1er mai, puis on a une petite surprise aussi avec des invités. Mais Rémi, je te laisse nous présenter tout ça.
Oui, on commence les annonces traditionnellement, comme chaque semaine. Cette semaine avec les Soulèvements de la Terre qui nous invitent à une rando festive et déterminée. Ça aura lieu le 11 mai dans le Puy-de-Dôme. On le sait, depuis Sainte-Soline et même avant, l'agro-industrie s'accapare un peu plus chaque année l'eau dans notre pays. Et maintenant, c'est au cœur de l'Auvergne, dans la plaine céréalière de la Limagne, à l'est de Clermont-Ferrand, qu'avance le plus grand projet de gigabassine jamais conçu en France, avec 2,3 mètres cubes d'eau sur 330 000 mètres carrés de bâches plastiques. Officiellement, le projet est porté par 36 exploitations agricoles, dont fait partie le président de la multinationale Limagrain, qui n'est autre que le quatrième semencier mondial. Et cinq de ses administrateurs aussi. Officieusement, c'est donc bien Limagrain qui pousse ce projet dans l'intérêt de sécuriser sa production de maïs semences destinée à l'exportation, le tout financé à 70% par de l'argent public. Ces gigabassines, elles se rempliront directement par pompage dans une zone qui est pourtant classée Natura 2000 et qui supporte donc localement l'alimentation en eau potable de plus de 200 000 habitantes et habitants. Cet accaparement, il va de pair avec la dégradation des sols, l'assèchement des écosystèmes, l'anéantissement de la biodiversité et la pollution des eaux par l'usage intensif de la chimie agricole. Les périodes de sécheresse ont beau être de plus en plus fréquentes, plus longues et plus sévères, l'agrobusiness s'accapare l'eau pour maintenir un modèle qui ne sert que des patrons. Les Soulèvements de la Terre s'associent donc à BNM 63, à la Confédération Paysanne, à Extinction Rébellion et aux Faucheurs Volontaires pour une randonnée pédagogique, festive et artistique face à ce projet écocide. Et comme on dit dans ce cas-là, nos bassaranes. Rendez-vous donc le 11 mai dans le Puy-de-Dôme, dans le coin de Limagne. N'hésitez pas à regarder du côté des Soulèvements ou de la Conf Paysanne pour connaître plus précisément les détails de ce rassemblement. Et plus près de nous, donc, ce dimanche 5 mai, c'est les lesbiennes contre le patriarcat qui appellent à manifester à l'occasion de la journée de visibilité lesbienne et bi qui a eu lieu le 26 avril. Le cortège partira donc le 5 mai à 15h de la place Louis Pradel vers l'hôtel de ville. Donc, le mot d'ordre de cette manif, il fait écho à l'attaque masculiniste et misogyne de Macron. Le mot d'ordre, ce sera non au réarmement. Le collectif Lesbiennes contre le patriarcat, il lutte depuis 2021 contre le système hétéropatriarcal et pour la visibilisation des identités et des vécus lesbiennes et bi. En 2002, le collectif avait appelé notamment à marcher contre le fascisme. Et dans cette lignée, il appelle à manifester cette année contre le réarmement démographique, mais aussi contre le réarmement policier qui attise les violences dans toute la société. Le collectif appelle donc tout le monde à marcher à ses côtés. Le parcours sera accessible à tout le monde, même aux personnes à mobilité réduite, et les prises de parole seront retranscrites en langage des signes français. Et ce cortège donc accueillera aussi dans ses rangs l'appel à manifester du collectif Le Coin des LGBT, qui appelait ce même jour à une marche pour les droits des personnes trans. Ces deux cortèges qui tombaient donc le même jour se feront ensemble à la même heure, au même endroit, et ça fait plaisir de voir cette convergence des luttes. Tout ça sera donc ce dimanche 5 mai à 15h au départ de la place Louis Pradel. Et voilà pour les annonces. Donc cette émission, comme tu l'as dit David, elle a la chance de tomber un 1er mai, donc on va énormément parler de mouvement social. Malheureusement, on va devoir parler de répression syndicale, de répression contre les étudiants et les étudiantes qui se soulèvent pour le peuple de Palestine. Et justement, donc en deuxième partie d'émission, on aura la chance d'accueillir, comme tu l'as dit, des camarades qui répondront un petit peu à nos questions et puis qui ont vécu les blocages qui ont eu lieu à Lyon hier.
Et qui plus généralement pourront nous permettre de faire le point sur ces mobilisations étudiantes qui ont agité, on pourrait dire, la sphère politico-médiatique ces derniers temps autour des occupations à Sciences Po, à l'ENS ou bien ailleurs, dans bien d'autres universités encore, et sur tous les enjeux qui tournent autour de ces mobilisations. Ça sera tout le thème de la seconde partie de cette émission. Donc restez bien à l'antenne sur ce 102.2 de Radio Canu. Dans la seconde partie des Idées Noires, on consacre l'émission à faire un point sur cette actualité brûlante et pourtant fondamentale au vu du drame qui continue à se dérouler au Moyen-Orient.
On va commencer avec toi, du coup, David, qui va nous faire un petit point sur le 1er mai.
1er mai, c'est pas une journée anodine. On va y revenir plus largement sur cette journée de lutte, et une journée de lutte qui trouve particulièrement sa place et son sens dans cette émission Idées Noires, puisque le 1er mai, c'est une journée qui est marquée dans le sang du mouvement ouvrier, mais plus particulièrement dans le sang du mouvement anarchiste. On voulait revenir tout d'abord sur les origines du 1er mai, en rappelant que l'idée du 1er mai comme journée d'action et de revendication ouvrière fut en fait lancée pour la première fois en 1884 au 4e congrès du syndicat américain AFL, la Fédération américaine du travail, où il avait été décidé d'impulser à partir du 1er mai 1886 une immense campagne d'agitation essentiellement menée au travers de grèves et qui visait à obtenir la limitation de la journée de travail à 8 heures pour reprendre cette idée que sur une journée de 24 heures, tout travailleur et toute travailleuse se devait de pouvoir en effet travailler 8 heures, mais bénéficier aussi de 8 heures de repos et de 8 heures de loisirs. Alors si à la date fixée du 1er mai 1886, des grèves ont éclaté sur l'ensemble du territoire américain, c'est en fait à Chicago qu'elles furent les plus radicales et où cette journée a acquis une importance historique qui marqua pour toujours le mouvement ouvrier international. Chicago était à l'époque un des centres les plus actifs du mouvement ouvrier américain, qui était principalement dominé dans cette ville par des militants anarchistes, dont un certain nombre étaient d'ailleurs des immigrés allemands, et ces derniers occupaient une place dominante parmi les travailleurs de la ville et parmi les animateurs syndicalistes en vue. Et il s'est trouvé qu'à l'occasion du 1er mai 1886, un véritable bras de fer s'est engagé avec le patronat local, où au lendemain de cette journée, alors que les grèves se poursuivaient en entraînant plusieurs milliers de travailleurs, les patrons avaient décidé de licencier 1200 ouvriers et de faire appel à des jaunes qu'on appelait les SCAPS et à la célèbre agence Pinkerton, qui était une agence de briseurs de grèves, une agence qui était de détectives privés et surtout de porte-flingue du patronat, qui était spécialisé dans la casse des grèves en fournissant des provocateurs, mais aussi, comme on le disait, des tueurs à gages. Et il s'est trouvé que quelques jours après le 1er mai, alors que les grèves se poursuivaient, le 4 mai au soir, un immense meeting était organisé rassemblant plus de 15 000 personnes sur la célèbre place du marché, le Haymarket, et dans un quartier populaire de la ville. Et la plupart des militants anarchistes en vue y ont pris la parole, tel Albert Richard Parson par exemple. Et en plein milieu du meeting, la police à cheval a chargé, alors que le rassemblement en plein milieu du rassemblement, provoquant bien évidemment un véritable affrontement affrontement avec les manifestants. Et dans la bataille, une bombe fut lancée sur un détachement de police par un militant anarchiste allemand dont on ne sut jamais si son acte était l'objet d'une provocation ou d'une sincère réponse à la violence policière. En tout cas, il n'empêche que cet acte fut le prétexte à une violente répression et où perquisitions et arrestations se sont multipliées dans les jours qui suivirent. Au total, ce fut en fait 8 des principaux leaders syndicaux de la ville, tous anarchistes, qui furent arrêtés, qui furent condamnés à la peine de mort le 20 août 1886 lors d'une véritable parodie de justice, comme sait si bien faire la justice américaine. 3 compagnons, 3 camarades virent finalement leur peine commuée en aménagement de bagne, mais malgré la campagne de solidarité, le 11 novembre 1887 au matin, Parsons, Fisher, Engel, Spies furent pendus. Link s'était suicidé en prison 2 jours plus tôt pour échapper à l'exécution. Et quelques années plus tard, en 1893, la révision du procès reconnut l'innocence des 8 inculpés, ainsi que la machination policière et judiciaire mise en place pour criminaliser et casser le mouvement anarchiste et plus largement le mouvement ouvrier naissant. Les suppliciés furent alors réhabilités, les 3 emprisonniers purent quitter leur bagne, mais on voit bien en quoi, pour nous, comme au-delà de ça, pour l'ensemble du mouvement social et du mouvement ouvrier, le 1er mai est donc bien une journée inscrite dans l'histoire du mouvement ouvrier avec le sang des militants anarchistes. C'était avec ces paroles qu'on voulait commencer cette émission Idées Noires, rappeler cette histoire, et on va faire une première pause musicale en rendant hommage à d'autres militants anarchistes qui ont été victimes de la répression patronale, étatique et judiciaire. On va retrouver le groupe lyonnais Les N-Brigade, qui en 1988 sur un 45 tours sorti, un split 45 tours sorti en commun avec les Berruriers Noirs en soutien à la revue anarchiste Noir et Rouge, avaient décidé d'écrire un morceau qui s'appelait Charleston, un morceau d'hommage à Bartolomé Sacco et Nicola Vanzetti, tous les deux électrocutés le 23 août 1927 à la prison de Charleston aux États-Unis, eux aussi militants immigrés italiens, militants anarchistes, victimes de la violence patronale, étatique et judiciaire américaine.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires sur Radio Canu. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler d'actualité du mouvement social. L'actualité, c'est pas mal de répression en ce moment, mais l'actualité, c'est aussi et surtout cette belle journée du 1er mai, journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Et David, tu vas continuer à nous en parler.
Eh oui, parce que non, le 1er mai n'est pas un jour de fête pour les travailleurs conscients. C'est dans le sang des ouvriers que le gouvernement a marqué ce jour en rouge sur le calendrier de l'histoire. Le 1er mai ne sera jour de fête et de réjouissance prolétarienne qu'au lendemain de la grève générale victorieuse et de la révolution sociale triomphante. Voilà ce qui était écrit le 1er mai 1909 sur la première page du journal La Voix du Peuple, journal officiel de la CGT, le journal confédéral de la CGT. Et voilà ce que écrivait la CGT en 1909 à propos du 1er mai. Le 1er mai, c'était bien un jour de lutte et non un jour de fête, comme on veut nous le faire trop entendre aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la fête du travail, mais il s'agit bien d'une journée de lutte internationale. Lutte internationale qui a réuni encore une fois des centaines de milliers de personnes dans les rues aujourd'hui. C'était le cas à Lyon, avec près un peu plus de 10 000 personnes qui ont défilé de la place Sans Souci jusqu'à la place Bellecour, non sans heurts à l'arrivée et même tout au cours de cette au contact de la répression policière, mais en tout cas un cortège dynamique, un cortège coloré, un cortège qui porte les revendications du mouvement social actuel, du monde du travail, qui se bat pour des augmentations de salaire, qui se bat pour contre la destruction des services publics et qui se bat contre toutes les réformes antisociales qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement. En tout cas, si aujourd'hui le 1er mai est aussi essentiellement significatif pour la majorité de la population de jours fériés et ne représente plus que pour le monde militant qu'une journée de revendication, ben il est bon de rappeler qu'il n'en fut pas toujours ainsi et de s'interroger en fait sur comment renouer avec une tradition de lutte. En fait, il faut rappeler que c'est le maréchal Pétain qui a décrété que ce jour serait férié et a décidé d'en faire une fête du travail pour en casser sa dynamique de revendication, parce que précédemment, avant que Pétain décide d'en faire un jour férié, une fête du travail, le 1er mai était un jour marqué par d'importantes grèves où les travailleurs tentaient au contraire, eux, de faire la fête au patron et à l'État. Cette journée, c'était en effet un événement national, bien souvent placé au centre de l'action syndicale, et qui voyait les travailleurs de tout le pays chômer parce qu'il fallait être en grève, il fallait être en grève ce jour-là, il ne fallait pas aller au travail pour réclamer la satisfaction de ses revendications. Et c'est simplement après près de 50 ans de 1er mai marqué par la grève, qui se fit par moment général, que donc Pétain avait très bien compris l'intérêt qu'il y avait à faire de cette journée un jour férié, rendant alors inopérant l'arme de la grève et tentant ainsi de transformer une journée de lutte en un jour de fête, un peu comme son invention aussi dans le même temps sur la fameuse fête des mères, fête toute patriarcale et maternaliste. Pour nous, il est au contraire bon de se remémorer certains 1er mai qui donc marquèrent profondément l'histoire du mouvement ouvrier et qui montrèrent aussi que les anarchistes ont souvent joué un rôle dans ces 1er mai qui furent révolutionnaires. On a parlé tout d'abord des origines du 1er mai, on l'a dit aux États-Unis tout à l'heure, qui ont été lancées autour de cette idée d'obtenir la journée de 8 heures, une idée qui se matérialisa donc deux ans plus tard, lors du 1er mai 1886, par un immense mouvement de grève qui entraîna plus de 340 000 grévistes paralysant 12 000 usines dans tout le territoire américain. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un 1er mai qui a été marqué dans le sang de l'histoire du mouvement ouvrier. En tout cas, c'est trois ans plus tard, en 1889, que le Congrès international socialiste qui était réuni à Paris choisit, lui, d'organiser une manifestation internationale et qui donna donc une véritable dimension internationale au 1er mai pour l'obtention des 8 heures de travail tous les 1er mai à partir de 1890. 1890, c'était donc la première année internationale de cette journée du 1er mai comme lutte internationale des travailleurs. Et les anarchistes qui avaient déjà marqué donc de leur sceau le 1er mai à Chicago en 1886 allaient aussi se lancer dans la bataille et malgré l'hésitation de certains d'entre eux, être dorénavant intimement liés à cette journée d'action ouvrière, notamment en France par leur implication à l'époque dans le syndicalisme révolutionnaire de la CGT étaient particulièrement des bourreaux du travail. En tout cas, le 1er mai 1890 fut notamment marqué par l'imposante manifestation de Vienne en Isère et les affrontements qui suivirent et qui aboutirent à de nombreux blessés du côté des forces de l'ordre et l'arrestation de près d'une centaine de militants. La ville fut mise en état de siège et la grève se poursuivit jusqu'au 6 mai dans ce département. Les jours précédant la manifestation, Louise Michel avait d'ailleurs animé devant plusieurs milliers de personnes des réunions dans la région, à Saint-Étienne, à Saint-Chamond, à Firminy, tout autour de nous, sur le thème de la grève générale et du 1er mai. L'année suivante, en 1891, le 1er mai fut marqué aussi par d'importants incidents qui inscrirent pour longtemps une haine tenace dans la mémoire de la classe ouvrière envers l'armée pour le rôle qu'elle joua au moment des grèves, puisque c'est à cette fois-ci dans le nord, à Fourmies, petite ville ouvrière donc du nord de la France, où la troupe a tiré sur la population, faisant 10 morts, dont 2 enfants, événement tragique dont d'ailleurs Émile Zola s'est inspiré dans son roman, Germinal. Et puis au même moment, cette même année, à Clichy, 3 militants anarchistes ont aussi été arrêtés à l'issue de la manifestation et ont été violemment passés à tabac à l'arrivée au commissariat. Nul se doutait alors que cette affaire aurait d'importants retentissements, puisque c'est celle-ci qui a été déclencheur de l'ère des attentats qui suivit à partir de 1892 à 1894. Ravachol, par exemple, expliqua qu'il avait commis son premier attentat pour venger les camarades anarchistes molestés par la police lors de l'arrestation de Clichy. En tout cas, à partir du tournant du siècle, les manifestations du 1er mai ont abandonné le caractère spontané et souvent violent des premières années pour se transformer en une véritable revue de troupes du syndicalisme révolutionnaire. Et la formation de la classe ouvrière, sa structuration syndicale et la place jouée en son sein par les anarchistes étaient quelque part passées par là. Et un des premiers mai essentiels fut celui de 1906, où l'objectif était bien évidemment affiché, celui de la grève générale. Alors déjà, à l'occasion du 1er mai 1901, La Voix du Peuple, le journal de la CGT, sous la plume de son rédacteur principal, l'anarchiste Émile Pouget, avait attiré l'attention des militants sur des expériences américaines précédentes pour réaliser rapidement la journée de 8 heures. Et en septembre 1904, au congrès de Besançon de la CGT, l'idée avait été lancée que, à partir du 1er mai 1908, après la 8e heure de travail, les ouvriers et les ouvrières devaient quitter l'usine et l'atelier. Toute l'année 1905 avait été alors marquée par la préparation du 1er mai 1906. Une commission pour les 8 heures avait publié tracts, brochures, affiches, avait organisé des conférences et avait mené une véritable campagne sur le thème 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Et après une agitation intense, la veille du 1er mai 1906, le gouvernement a peur et a fait arrêter de nombreux militants, dont une partie de la direction de la CGT, a prévu des délateurs et a consigné les troupes dans les casernes prêtes à agir. Des manifestations se sont déroulées à Paris dans 138 villes de province avec des cortèges très importants de plusieurs dizaines de milliers de personnes, 50 000 à Marseille, 40 000 à Lyon, 20 000 à Lille. On voit bien l'importance que ça pouvait revêtir à cette époque. Et la grève s'était poursuivie jusqu'à la mi-mai avec des pointes de grévistes qui, parfois impressionnants comme à Lyon ou à Paris, où l'on dénombrait jusqu'à 200 000 grévistes. Malgré le succès d'avoir pu impulser pour la première fois une grève générale d'ampleur nationale autour d'un mot d'ordre unificateur, les objectifs que s'était fixé la CGT n'ont pas été atteints et la déception a été quand même grande chez de nombreux militants. Et le 1er mai a perdu de son ampleur après l'échec de ce 1er mai 1906, en partie cassé par la répression étatique. Et à partir de 1911, les tensions au niveau international des journées du 1er mai se feront bien souvent sur des mots d'ordre antimilitaristes tournés contre les menaces de guerre. En tout cas, à la sortie de la Première Guerre mondiale, le 1er mai 1920 se déroule quelques mois après l'importante grève des cheminots et est la dernière expression d'une action syndicale unitaire dans de nombreux endroits teintés d'espoir révolutionnaire. De nombreuses villes connaissent des situations de grève générale avec des revendications de nationalisation d'entreprises et de contrôle ouvrier, mais nourrissent aussi tous les espoirs de révolution sociale qui sont bien sûr éclairés par la grande lueur qui est venue à l'Est, par l'exemple de la révolution russe. En tout cas, au lendemain de ces grèves générales avortées, une des ultimes conséquences du décalage entre la direction de la CGT, qui est issue de la collaboration de l'Union Sacrée et une réalité militante dans de nombreux départements, qui est ici, elle, au contraire, des grèves revendicatives de 1917, va être la scission syndicale. Et durant de toute l'entre-deux-guerres, l'organisation de la dynamique des 1er mai souffriront profondément de cette division syndicale, où seule la marche à l'unité redonnera toute son importance à cette journée d'action, comme lors du 1er mai 1934, réagissant à la tentative de coup d'État fasciste du 6 février 34, ou lorsque le mouvement ouvrier finalement affirmera son opposition au danger fasciste, ou le 1er mai 1936, qui fête l'unité syndicale retrouvée avec les grandes grèves ensuite du Front populaire de mai-juin 1936. Alors tout ça, on nous montre l'importance de ces journées du 1er mai à travers l'histoire, mais on pourrait se dire, et maintenant ? Et maintenant, qu'en est-il du 1er mai ? Eh bien, depuis déjà de nombreuses années, le 1er mai ne semblait plus forcément incarner l'expression centrale des revendications ouvrières, même plus largement du mouvement social dans son ensemble. Pourtant, il y a eu des grandes grèves, comme celle de novembre-décembre 1995, où les deux 1er mai qui ont suivi ont renoué avec une certaine radicalité. Et aujourd'hui, depuis le mouvement des retraites de l'an passé, au moment où le mouvement social semble depuis quelques temps relever la tête au travers de luttes comme celle qui a eu lieu donc contre le mouvement des retraites, ou de simplement de nombreux grèves de salariés qui semblent exprimer une certaine volonté de reprendre le chemin de la lutte sociale, il serait bon de s'interroger sur les moyens de redonner un rôle offensif et central à cette journée du 1er mai. Cette journée du 1er mai qui peut être une caisse de résonance dans les luttes sociales qu'on mène tout au long de l'année, qui peut être un moment d'impulsion et de convergence des luttes, en tout cas dans le cadre d'un mouvement social qui gagne chaque jour en autonomie et en radicalité. Il appartient à tous de savoir faire de cette journée un moment de convergence de nos revendications et nos aspirations à la transformation sociale. Et c'est ce à quoi on s'est employé aujourd'hui, ce 1er mai 2024, en étant ce matin, cet après-midi dans la rue, en manifestant de la place de Garibaldi jusqu'à la place Bellecour, puis ensuite en continuant, même en cortège noir et rouge, de la place Bellecour jusqu'à la place Satonnet, où Radio Canut tenait son traditionnel repas de quartier. Voilà ce qu'on tenait à rappeler en ce 1er mai 2024 dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire sur ce 102.2 de Radio Canut.
Et comme un peu trop souvent dans cette émission, on va ouvrir une petite page répression. Avant de parler de la lutte en soutien au peuple palestinien dans les universités avec nos invités, on va ouvrir cette petite page avec un camarade syndicaliste de Sud Éducation, Olivier Cuzon, qui a été entendu ce 19 avril en audition libre pour diffamation et injure publique envers la gendarmerie nationale et la police nationale, bravo à lui. Et la personne qui a déposé plainte contre lui, ce n'est nul autre que notre détestable ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin en personne. Si Olivier Cuzon, donc professeur de physique chimie, est mis en cause, c'est parce qu'il est le directeur de la publication du journal du syndicat Sud-Éduc du Finistère. En cause donc un article publié en octobre qui s'interrogeait sur la pertinence des classes défense et sécurité globale, des classes qui permettent un partenariat entre l'armée et les collèges, décidé par le gouvernement Valls, si je dis pas de bêtises, après les attentats de 2015. Le principe de ces classes défense, il est assez simple. On fait venir un militaire dans un collège, et là je me permets de citer Wikipédia, dans le but de contribuer au développement de l'esprit de défense, au renforcement du lien armée-nation, et du patriotisme dans le cadre de l'éducation civique. Alors voilà, c'est pas très clair ce que ça veut dire, mais en gros ça veut dire militariser la jeunesse. C'est un programme qui toucherait pas moins de 12 500 élèves d'après l'article mis en cause, et qui mettrait en place des ateliers variés et franchement ludiques si on en croit les intitulés, puisqu'on retrouve notamment la fouille de cellules pénitentiaires ou le tir au pistolet laser, hein, ça fait rêver. Dans l'article, donc, on retrouve des questionnements qui semblent, ma foi, tout à fait légitimes, puisque se demandent assez naturellement s'il ne s'agit pas, je cite, d'une forme d'endoctrinement, un patriotisme désuet et résolument réactionnaire. Ce questionnement est important, continue l'article, quand on connaît la culture droitière, misogyne et homophobe sous de très nombreux képis. Les enquêtes de Mediapart révélant l'existence de groupuscules nazis dans certaines casernes, les groupes de discussion racistes des policiers et gendarmes ou la participation récente de militaires en civil à la répression des dernières émeutes de banlieue ne plaident pas en faveur du républicanisme des militaires. Fin de citation. Voilà, bon, on n'aurait pas mieux dit ici même à Radio Canu, je pense. Et donc, finalement, on a affaire à un article pas si virulent que ça, qui ne fait que questionner l'action gouvernementale. Une action, on va insister là-dessus, qui consiste quand même à faire la promo de l'armée dès le collège. Et il a donc fallu que le ministre en chef de la police donne de sa personne et dépose plainte. Il aurait pu commencer par balayer devant sa porte, agir pour qu'il y ait moins de nazis, de sexistes ou de LGBTI-phobes dans ses rangs. Mais non, il a préféré porter plainte pour un article qui critique ses petits soldats. La manœuvre étant bien évidemment un coup de pression qui porte atteinte à la fois à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté syndicale. Heureusement, de nombreux soutiens se sont exprimés en faveur d'Olivier Cuzon, et aussi pour dénoncer ce qui ressemble en fait à un procès politique. Par exemple, la section locale de la Ligue des droits de l'homme s'inquiète dans un communiqué, je cite, de l'atteinte au droit à la liberté critique de mesures gouvernementales et du comportement de certains membres des forces de l'ordre, et s'indigne de cette atteinte aux droits fondamentaux d'une presse libre et indépendante. Le PCF du pays de Brest estime, lui, que c'est la liberté de la presse qui est aussi en ligne de mire. Le PS du Finistère dit que l'opportunité de cette démarche de la part de Darmanin interroge. Et même les écologistes de Brest affirment que les différentes pressions, annulations, menaces à la liberté d'expression politique, syndicale, associative, se multiplient dans notre pays et cela devrait révolter toute démocrate. Bref, sur ce coup, GG Darmanin a bien réussi à énerver la gauche, même la plus modérée. Bravo à lui, on le félicite au passage. Et ce procès, qui n'est qu'un coup de pression qui vise la censure, voire l'autocensure de l'expression syndicale, eh bien, il nous rappelle bien évidemment un autre procès dont on a parlé ici, qui a eu lieu le 28 mars dernier. C'est celui de Jean-Paul Delescot, secrétaire général de la CGT du Nord, qui comparaissait pour apologie du terrorisme, rien que ça. On a appris depuis qu'il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, mais il a fait appel, on vous en reparlera sûrement dans les prochaines émissions. Ce procès-là faisait suite à un communiqué publié par son union départementale, communiqué qui ne faisait qu'apporter son soutien au peuple de Gaza, prisonnier d'un gouvernement israélien colonialiste, tout en déplorant les victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre. Voilà, donc ce qu'il en est de la répression. Et puis, bah, puisqu'on parle répression du mouvement de soutien à Gaza qu'a subi Jean-Paul Delescot, on enchaînera après une petite musique avec nos invités qui vont nous parler de la lutte pour le soutien du peuple de Gaza qui a lieu actuellement dans les écoles et les universités.
Allez, on fait justement une deuxième pause musicale sur 102.2 de Radio Canu dans cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. On retrouve les cochises qui nous chantent le Maria Dinamita.
Cela signifiait que c'était le moment de traverser la
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Et on est encore ensemble jusqu'à 21h. Et comme on l'a annoncé en début d'émission, place à nos invités.
Oui, puisqu'on a la chance d'avoir dans le studio avec nous trois étudiantes et étudiants qui ont participé au mouvement de lutte de soutien au peuple palestinien. Louise et Tommy, donc, qui étudient à Lyon 3, force à vous. Et Daniel, un camarade de l'UCL qui étudie à l'ENS Lyon. Déjà, vous étiez hier au blocage de Lyon 3. De Sciences Po, non, de Lyon 3.
Alors,
comment ça s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'était pas un blocage. C'était, en fait, il y avait donc à midi un rassemblement à Sciences Po, puis une assemblée générale, et à 16h30, un rassemblement qui était prévu à Lyon 3. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Juste, je voudrais préciser une chose. C'est que donc c'était en effet un rassemblement en soutien au peuple de Gaza, mais en fait au peuple palestinien en général, parce qu'on a souvent tendance à oublier la situation, notamment en Cisjordanie, où les colons directement armés par le ministre de l'Intérieur, Itamar Ben-Gvir, mènent des raids de plus en plus violents, avec y compris le soutien actif de l'armée. Ce 1er mai, donc journée de lutte, ça arrive aussi quelques jours après que la police israélienne ait perquisitionné les locaux du parti communiste israélien Hadash. Ceci étant dit, donc, ce qui s'est passé, c'est que à Sciences Po, donc c'était à midi, il y a eu un rassemblement. Un rassemblement en soutien au peuple palestinien dans la cour de Sciences Po, Lyon, et suivi par une série de prises de parole, dont la prise de parole de l'UCL, où on a lu notre communiqué qui s'appelle « Le génocide continue, le cessez-le-feu est vital ». C'était un rassemblement où il y avait plutôt du monde, je ne sais pas exactement évaluer combien.
Autour de 200 personnes.
200 personnes.
De 200 personnes.
Ah, pas mal.
Donc c'est pas mal, surtout pour un premier rassemblement sur Lyon. C'est-à-dire, ça montre qu'il y a vraiment une dynamique qui est en train de prendre. Visiblement, après, à l'Assemblée Générale, il y avait moins de personnes, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et on a pu voir que c'était des étudiants et des étudiantes de Sciences Po, mais aussi d'autres universités et lieux d'études de Lyon. Il y a cette convergence qui est surtout des étudiants et des étudiantes, mais pas forcément de Sciences Po. Et donc c'était quelque chose de très intéressant, à la fois par la quantité et puis par la qualité aussi, y compris des débats dans l'Assemblée Générale. Est-ce que peut-être je laisse quelqu'un d'autre raconter pour le rassemblement à 16h30 qui était censé se tenir à Lyon 3.
Donc du coup à 16h30 on était censé se retrouver dans la cour sud, le lieu des qualifiés des gauchos par rapport à la cour nord de notre fac. Et malheureusement, à partir de 14h, les gens de la sécurité, ils ont commencé à vouloir bloquer les entrées et contrôler les cartes étudiantes pour éviter toute manifestation au sein de l'université. Donc on s'est retrouvé vraiment en face du McDo, autre symbole du boycott contre le génocide à Gaza. Et on a donc décidé de faire un peu un coup de pression pour rentrer ou pour montrer notre mécontentement dans ce lieu symbolique de Lyon 3, chose qui n'aurait pas été possible il y a quelques années. Même, je ne sais pas si Tommy, tu veux parler de ce qui s'était passé l'année dernière avec le mouvement de retraite qui nous avait plutôt marqué comme esprit, qui a permis aussi de faire cette première manifestation en soutien au peuple palestinien au sein, plutôt en face de l'université Lyon 3.
Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, avec le mouvement social qu'il y a eu en 2023 contre la réforme des retraites, ça a vraiment redonné un boost, un peu de politisation à la vie en général de la société. Et du coup, ça n'a pas manqué que dans toutes les facs et du coup à Lyon 3, il y a eu aussi une envie de montrer qu'il y a une présence de gauche dans cette fac qui a toujours été assimilé à l'extrême droite, et ce qui n'est pas faux, parce que historiquement l'administration plus les élèves a eu un sévère passé d'extrême droite qui s'est un peu calmé, on peut dire aujourd'hui, mais pas totalement. C'est pour ça qu'il s'est passé que donc en mars 2023, il y a eu un blocage qui a été décidé en assemblée générale à Lyon 3, et qui s'est passé et qui a réussi, d'ailleurs, qui est du coup le premier blocage depuis les années 80, il me semble. Et d'ailleurs, le blocage des années 80, c'était un blocage de l'extrême droite. Bon, donc c'est un des premiers blocages de gauche à Lyon 3. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, le blocage s'est bien passé, mais il a failli se finir plus tôt que prévu, car le matin, on a eu une attaque ouverte des fascistes de Lyon qui sont venus pour essayer de déloger le blocage, mais heureusement. Ils ont pas réussi à contrer la puissance étudiante. Non, c'est vrai, ils se sont fait éjecter de Lyon 3, qu'ils ont essayé de venir débloquer avec des points. Et ça a du coup montré vraiment la présence de Lyon 3. C'est une première tentative réussie du coup de Lyon 3 de s'imposer, de se montrer sur la scène politique à Lyon. À gauche, et c'est pour ça qu'avec la rentrée en septembre, il y a eu une envie de continuer un peu de cette présence à gauche dans cet établissement qualifié d'extrême droite. C'est pour ça qu'il y a eu divers choses qui se sont passées, comme en octobre, il y avait eu Solidaire étudiant qui avait organisé une série de conférences, une semaine antifasciste à Lyon 3. Donc, ce qui est assez fou, parce que même avec l'administration, quelques années auparavant, ça n'aurait pas été accepté. Mais c'était accepté. Le début s'est bien passé, les deux premières journées s'étaient bien passées. Mais il y a eu une intrusion à un moment de plusieurs membres d'extrême droite, une dizaine d'extrême droite qui étaient venus envahir. La salle où s'était passée une conférence sur l'histoire de l'extrême droite à Lyon 3, qui heureusement s'était finie plus tôt. Donc quand ils sont rentrés dans une salle vide. Mais ça montre qu'il y a quand même une tentative de l'extrême droite de pas vouloir se laisser faire, de vouloir garder leur fief à Lyon 3. Mais heureusement, on a continué avec plusieurs étudiants de Lyon 3, étudiants et étudiantes, de vouloir continuer cette présence à gauche et contre l'extrême droite dans la fac. On avait notamment, par exemple, organisé en mars pareil, une conférence sur l'extrême droite au niveau national, gouvernemental, ce qui se passait, qui s'est très bien déroulé cette fois. Et c'est pour ça que du coup, ça fait une année et un peu plus d'une année que du coup il y a un travail de présence qui a permis du coup de pouvoir ramener plusieurs personnes de Lyon 3 et qui a permis du coup de pouvoir organiser ce rassemblement en partie parce que si on avait appelé juste alors qu'il n'y avait rien eu tout ça, je pense pas que beaucoup de gens seraient venus avec la réputation que la fac a. Et du coup, c'est un travail de long terme qui se fait sur la fac pour maintenir cette présence et pouvoir continuer à se mobiliser pour des causes.
Du coup, la réforme des retraites en 2023 a permis de mettre le pied dans la porte de Lyon 3. Est-ce que cette année, hier, justement, vous avez senti que le rapport de force s'était un petit peu inversé et que enfin, des idées de gauche, ou en tout cas pas des idées d'extrême droite, avaient réussi à entrer dans la fac? Comment ça s'est passé hier? Il y a eu une AG, je crois, qui... Donc il y a pu avoir des discussions au sein de Lyon 3. Daniel ?
Juste pour préciser, l'AG, elle était à Sciences Po.
À Lyon 3. À Sciences Po, okay.
Et donc, il y a la dynamique qui est interne à Lyon 3. Et il y a aussi, du coup, le fait qu'il y a eu deux rassemblements le même jour, étudiants, qui... alors, le rassemblement à Lyon 3 était un peu plus petit que celui... Il faudrait d'ailleurs qu'on parle un peu de comment ça s'est passé. C'est-à-dire que c'était un peu plus petit, et surtout que comme, du coup, ils ont... Enfin, du coup, c'était devant les portes, et on allait un peu d'une... du coup, c'est resté devant les portes de Lyon 3. Du coup, c'est resté. Il y a pu y avoir l'impression, en tout cas de l'extérieur, que la fac avait beaucoup flippé et qu'elle avait senti quelque chose changer dans le rapport de force. Maintenant, au-delà de la situation particulière à ce bastion historique de l'extrême droite, il y a aussi une mobilisation étudiante qui est très forte. Il y a aussi une AG vendredi à midi à l'ENS, dans le hall mono.
Jeudi à Lyon 2.
Et jeudi à Lyon 2, à quelle heure ?
À 13h.
13h.
Tellement.
Donc voilà, il y a aussi une mobilisation étudiante qui se poursuit, qui se développe sur toute la France. Mmh.
Tommy, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, oui, c'est juste que le rassemblement à Lyon 3, précisément, on a vu que la fac a, comme Daniel a dit, a un peu plus paniqué. Et comme Louise avait dit, il y a eu un contrôle beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus strict.
Serré, ouais.
Uniquement les étudiants de Lyon 3 pouvaient rentrer dans la fac avec des points de contrôle. Genre la fac avait vraiment en partie enfermée elle-même, créant des points de contrôle comme si c'était à la douane, alors que normalement la fac est plutôt ouverte. Donc on voit bien que ça montre que pour des sujets comme la Palestine, la fac a beaucoup plus peur qu'il y ait un mouvement qui se lance, et beaucoup plus complice par rapport à ce qu'on voit quand elle laisse des étudiants d'extrême droite à l'intérieur de étudier alors qu'elle le sait très bien. On voit que la sécurité est beaucoup moins présente et beaucoup moins se sent beaucoup moins concernée quand il y a des attaques justement de fascistes sur la fac ou qui entrent dans la fac tranquillement. Donc ça montre que la fac
la direction de la fac reste toujours à peu près à la cause plutôt de l'extrême droite que de la gauche.
Pas forcément de l'extrême droite, mais on voit qu'elle elle essaye de se donner un côté progressif qui avance, mais on voit bien que du coup avec des sujets sur la Palestine, ça fait ressortir leur vrai côté bourgeois, et que du coup on voit qu'ils restent sur la ligne nationale et de on parle pas de la Palestine, on va pas vous laisser, et on est carrément prêt à fermer toutes les entrées de la fac pour que vous parliez pas de ce sujet à la fac.
Bah alors justement, tu es revenu sur le sujet de la Palestine, là on a beaucoup parlé de la forme. Au niveau du fond, qu'est-ce qui a pu être discuté, notamment dans l'AG ? Est-ce qu'il y a eu des discussions, des positions ? Qu'est-ce qui en est ressorti de ces rassemblements ?
Au niveau politique, ce qui apparaissait, ce qui ressortait, c'est donc déjà... Quand même, le point de départ, c'est l'opposition au génocide en cours, qui a beaucoup été rappelé. Alors, j'emploie évidemment à dessein le mot génocide parce qu'il a été employé et parce qu'il s'applique ici, à la destruction donc systématique de l'ensemble du peuple de
le peuple palestinien en général.
Alors, c'est la définition de génocide, elle a surtout été appliquée pour ce qui se passe à Gaza. La destruction systématique, non seulement donc des personnes, mais des infrastructures, de tout ce qui rend la vie possible, vivable, enfin les écoles, les hôpitaux, les universités aussi. Et j'insiste sur les universités, parce que la solidarité universitaire, elle vient aussi de là. Cette cause et cette urgence de se mobiliser en tant qu'étudiant, étudiante, a beaucoup été rappelée. La nécessité du coup d'une libération de la Palestine. Ensuite, donc il y a quelque chose qui a peu été abordé de façon directe, qui était la question du boycott. Du boycott donc, dans son versant universitaire, c'est-à-dire de la rupture, parce qu'il faut savoir quand même que les universités israéliennes, alors certaines, notamment l'université hébraïque de Jérusalem, ont des campus en Cisjordanie occupée, et collaborent directement avec les entreprises de l'armement pour concevoir donc, des technologies d'armement qui sont utilisées aujourd'hui contre les Gazaouis. Notamment, et donc la question du boycott et la rupture des partenariats se pose. Le boycott, c'est pas un boycott contre des individus, c'est même l'inverse en fait. C'est aussi une des revendications du boycott, c'est la liberté académique réelle. Puisque donc il y a notamment des licenciements d'universitaires, notamment je pense à Nadera Charloup-Kevorkian, historienne, qui a fait des travaux très importants sur l'histoire de la Palestine et de la Nakba notamment. Qui a été licencié par l'université hébraïque de Jérusalem parce que, je cite de mémoire, l'université hébraïque de Jérusalem est un établissement israélien public et sioniste, ce qui est quand même une façon de dire que du coup les opinions critiques du sionisme n'ont pas leur place et valent licenciement pour celles qui les tiennent. Donc il faut arrêter de considérer en fait qu'Israël est une démocratie où il y aurait une liberté académique. On peut regretter quand même que cette question du boycott était peu abordée de façon frontale. C'est-à-dire que si on a entendu par exemple, à juste titre, que les universités étaient complices tant qu'elles ne mettaient pas en place cette politique-là, en fait la notion de complicité a surtout été... Enfin, on a surtout dit qu'elle était complice parce que Lyon 3 s'était barricadé, mais en fait il y a quelque chose de plus profond là à réclamer. Et après, bon, il y a des slogans, en tout cas à titre personnel, avec lesquels je n'étais pas forcément... en accord, mais en tout cas, cette mobilisation et son existence et le fait qu'elle prenne place dans les universités est important à la fois parce que les universités de Gaza, notamment, ont été détruites et parce que, tout simplement, il y a un génocide en cours et qu'il y a cette grande tradition de militantisme étudiant contre les guerres impérialistes et coloniales qu'on a vu notamment dans le cas du Vietnam dans les années 1960.
Et où pas mal d'universités aussi s'étaient soulevées pour dire non à la guerre au Vietnam. Le mouvement étudiant avait été un des moteurs de tout ça. Il y a un petit point que je voulais aborder, c'est celui de la répression et de la pression, notamment parce qu'une étudiante de l'EHESS à Paris a été entendue récemment pour apologie du terrorisme. Elle explique certes qu'elle risque la prison, plusieurs années de prison, c'est la peine maximale, mais aussi elle risque, si jamais la moindre virgule était inscrite dans son casier judiciaire, de ne pas pouvoir bosser comme fonctionnaire à l'avenir en sortant de l'EHESS. Est-ce que vous, en tant qu'étudiante, c'est quelque chose que vous ressentez, cette pression, ce risque? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a fait parler, dont vous avez entendu parler avec les camarades?
Je pense qu'on en a tous et toutes conscience d'un côté, mais que de l'autre côté, on se dit que pour ce qu'on est en train de lutter, c'est vraiment très important de se montrer, de faire des choses comme sont en train de se passer actuellement aux États-Unis, où on a suivi pour Sciences Po Paris. Donc on répond à ce besoin de mettre la question palestinienne sur le devant de la scène et que ce soit approprié par toutes les étudiantes et les étudiants, même si on a conscience que cela pourrait un jour peut-être nous mettre en difficulté pour trouver un travail. Je pense personnellement que c'est une question extrêmement importante. C'est un massacre qui est en train de se passer et on ne peut pas laisser faire ça d'une manière au moins sans se révolter. Donc ça dépasse de cette manière-là les enjeux personnels.
Ouais. Daniel?
Oui, juste pour parler de en fait enfin, il faut quand même aussi avoir en tête que c'est une dinguerie qu'on soit en train de parler de... Enfin, qu'on en soit là, c'est-à-dire que, par exemple, que ce soit Mathilde Panot, Rima Hassan, qui ont été entendues pour apologie du terrorisme, c'est des choses qui sont... ou Jean-Paul Delesco, de la CGT, c'est des choses qui sont ahurissantes. Il y a une solidarité à avoir avec les personnes qui sont interpellées, il faut aussi dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se demande, pour dénoncer un massacre de masse qui prend des proportions génocidaires, on doit s'inquiéter pour notre carrière. Est-ce que ça, c'est normal? Et est-ce qu'à l'inverse, les apologistes de ce massacre sont entendus? Ben non.
Non.
Et il ne s'agit pas de faire appel à la justice pour qu'ils soient entendus, parce que il ne semble pas que la justice soit une réponse à ce problème politique et que la loi qui définit l'apologie du terrorisme elle-même pose problème. Mais de dire qu'en fait, c'est pas normal et qu'on a juste l'impression d'être là où on doit être, en fait. Et voilà.
Et d'ailleurs, du coup, pas d'arrestation a priori hier.
Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de traces de la police ni à Sciences Po ni à Lyon 3. Mais évidemment, je pense que c'est beaucoup trop tôt à Lyon, en tout cas, pour pouvoir dire s'il va rien avoir ou s'il va se passer quelque chose. Parce que c'est vraiment juste le début. Il n'y a pas eu. On n'est pas au niveau de Sciences Po Paris, ni des universités aux États-Unis. Il n'y a pas encore d'occupation, il n'y a pas de campement. On n'est pas encore au niveau des autres villes pour avoir encore ce niveau de répression. Mais évidemment, c'est un truc qu'on peut s'y attendre.
Ok, bon, on va pas terminer sur la répression, hein, on va plutôt parler ce dont vous parliez tout à l'heure, les prochains rassemblements, les prochains événements qui sont prévus. Vous aviez dit jeudi et vendredi, je crois.
Jeudi, oui, jeudi il y a à Lyon 2, pour que du coup la mobilisation continue sur tous les différents campus, sur plus de campus de Lyon. Du coup, il y a un rassemblement à Lyon 2, Porte des Alpes, à 13h, au Forum, c'est comme ça que ça s'appelle, et qui est appelé par plusieurs organisations syndicales étudiantes, comme Solidaire ou le CELA 69 pour l'instant, et c'est eux que j'ai de tête de mémoire.
Donc à l'ENS, il y a aussi donc, le vendredi à midi une assemblée générale, parce que donc on essaye dans chacun de nos lieux d'études de construire cette mobilisation. Il y a d'autres actions aussi qui sont en préparation et qui sont prévues pour les jours à venir. Donc voilà, c'est une mobilisation qui prend vite. On peut dire qu'elle prend,
tard,
d'une certaine façon. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, et une occasion historique qu'il ne faut pas rater, parce que tout simplement il y a urgence.
Merci à vous trois d'être venus ce soir témoigner. Évidemment, notre micro reste toujours ouvert dans les semaines qui viennent pour les développements de tout ça.
Et puis on vous rappelle que dès demain matin, l'émission est en réécoute sur la page de l'émission Idées Noires sur le site de Radio Canu. Pour tous ceux qui veulent la réécouter, la diffuser, pour faire entendre ce message et faire écho à cette lutte, à cette mobilisation des étudiants par rapport à la situation au Moyen-Orient, en Palestine. Voilà, c'était l'émission Idées Noires, l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On se retrouve dès mercredi prochain à 20h sur ce 102.2 de Radio Canu, comme toutes les semaines, 20h-21h, Idées Noires, l'émission de l'UCL. Et